poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Elle écrit « Les coyotes spirales, tout autour de moi, je réprime un fou rire, les nerfs tendus de joie. » Elle écrit « L'avenir appartient à celles qui tiennent fort. » Et elle écrit aussi « Mais attends, 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 j'ai pas fini encore. » Aujourd'hui, retour au bois avec Gabrielle Filtoshiba. Alors, ce qu'on entend, c'est le son d'une forêt française, pour être plus précise, le matin même, pour être encore plus précise, pour vous accueillir. Gabrielle Filtoshiba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Quel était le son de votre forêt à vous, celle qui entourait votre cabane?
Les mésanges à tête noire, qu'on appelle en anglais les chickadees, qui font chickadee-dee-dee, chickadee-dee-dee. Les jets bleus. J'ai bleu qui sont nos brigadiers, hein, qui annoncent toute la faune quand un danger arrive. Oui, puis le craquement des branches dans le vent quand il fait très froid.
En 2013, hein, vous avez déguerpi, vous avez quitté Montréal. Hein, vous aviez... Alors, parfois on entend 23, 24, 25, je ne sais pas exactement, 25 ans, une vie citadine, une vie de traductrice juridique, parfaitement dans les clous, pour vous installer seule dans une cabane au sud de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Kamouraska, en autonomie. Une cabane sans eau, sans électricité, et un hiver qui peut descendre en tout cas, jusqu'à moins 40. Vous y restez un an avant de construire tout près de là votre propre maison avec votre compagnon, et bientôt votre fille, qui est là d'ailleurs, qui nous regarde. Cette expérience-là, vous l'avez écrite d'abord dans « Encabané », paru en 2018 au Québec, et puis quelques romans plus tard, vous l'écrivez encore dans « La forêt barbelée », qui est le recueil de poésie qui paraît tout juste en France aux éditions Le castor astral. Peut-être un mot d'abord sur ce terme de cabane, ou sur cet objet cabane. Avant d'en faire un mode de vie, qu'est-ce que c'était qu'une cabane pour vous? Est-ce que c'était un lieu inquiétant, un lieu rassurant, un reste d'enfance?
Les trois, oui. Parce que quand j'étais petite, mes parents avaient un chalet au bord d'un lac, puis à tous les week-ends, on partait... passer la fin de semaine là, puis ma mère me construisait une structure un peu en forme de tipi, hein, avec quelques grandes branches, des troncs d'arbres qui étaient tombés au sol. Puis une fois que c'était bien solide, elle me laissait seule en forêt, puis moi je passais des heures et des heures à placer des branches de sapin, à tapisser le sol de brindilles. Puis une fois que c'était terminé, bien, je m'installais à l'intérieur, puis je lisais, je dessinais, j'étais libre.
Au fond, c'est un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez rejoué ou réinventé oui. Quelques années plus tard.
Oui, c'est presque instinctif, je dirais, cet élan d'aller vers la forêt quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien, juste pour faire le plein de beauté.
Alors, qui dit cabane, dit forcément Henri-David Thoreau.
Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie. Voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner et non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Je ne désirais pas vivre ce qui n'était pas une vie, car la vie est très précieuse. Je ne désirais pas davantage cultiver la résignation, à moins que ce ne fût absolument nécessaire. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie. Vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute. Couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin et la réduire à ses composants les plus élémentaires. Notre vie s'émiette en menus détails. Un honnête homme a rarement besoin de compter davantage que sur ses 10 doigts et, dans les cas extrêmes, il peut y ajouter ses 10 orteils et laisser tomber le reste. Simplicité, simplicité, simplicité.
lu par Yvan Morane, un petit montage de Walden ou La vie dans les bois d'Henri David Thoreau, dans la traduction de Brice Mathieu Sang, c'était pour les éditions Le Mot et le Reste, et c'était dans Les chemins de la philosophie sur France Culture en avril 2017. Jusqu'où Walden a-t-il fait modèle de votre expérience ?
C'est un livre que mon père m'a offert quand j'étais adolescente, puis c'est un des rares livres que j'avais avec moi dans la cabane et que j'ai lu à voix haute, donc je suis bien émue d'entendre cet extrait parce que je l'ai lu plusieurs fois quand je frôlais la folie, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, mais je me référais à ce grand penseur puis à ce père de l'écologie surtout.
Il dit, là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qu'il désirait vivre de manière réfléchie et puis au fond qu'il désirait aussi jouir davantage de la vie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là dans votre départ de Montréal ou dans votre arrivée dans cette cabane? Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Est-ce que ça veut dire que c'était davantage pour vous une rupture, un refus de la vie que vous meniez ou quelque chose de l'ordre de la pulsion
Je voulais mener une vie cohérente. J'étais incapable d'être bien en ville. Pourtant, je suis née à Montréal. J'ai grandi à Montréal, mais je sentais un stress, une angoisse constante. J'avais besoin de silence, de calme, de temps, de sommeil. J'avais envie de lire tous ces livres que j'avais pas le temps de lire. J'avais envie de dormir tard le matin. J'avais envie d'observer la faune. Puis, dans la cabane, j'ai passé des années à faire ça. Donc, ça a été vraiment un cadeau que je me suis offert.
Qu'est-ce qui vous a fait rester?
En fait, j'ai voulu partir, mais c'est le froid qui m'a immobilisée, vraiment, parce que je me rappelle un matin, il faisait moins 44, si froid que même j'entendais plus les souris dans les murs, j'étais inquiète pour les souris. Puis je suis partie vers ma voiture avec mon traîneau, tous mes essentiels, et je me suis dit je vais retourner à Montréal. J'ai échoué, je suis pas capable de survivre entre quatre murs, j'arrive pas à garder la chaleur. Et puis ma voiture voulait pas démarrer tout simplement parce qu'il faisait trop froid. Donc je suis retournée, puis c'est là que le titre « Encabané » m'est venu en tête. Puis il y a le côté péjoratif aussi de l'enfermement.
À quel moment est-ce que l'écriture est intervenue? Tout de suite?
Dès le départ. Par ennui dans un premier temps, parce que le soir, l'automne, l'hiver, le soleil se couche très tôt. Puis j'avais envie de me confier, aussi de consigner toutes les présences animales, les traces que je voyais dans la boue, dans la neige. J'avais envie de comprendre les êtres qui m'entouraient. Est-ce que c'était des coyotes, des loups, des renards? Puis par après, mais c'était pour garder ma santé mentale parce que je chauffais le poêle en continu la nuit, je dormais presque pas, j'avais très peur de m'endormir. Alors dès que je mettais des bûches dans le poêle, j'écrivais, je dessinais en attendant que vraiment là le feu soit bien pris. Puis là je pouvais fermer les clés, la combustion lente commençait puis je pouvais dormir quelques heures sans risquer de geler vive.
La cabane, c'est aussi du temps, voilà, du temps subi, mais du temps choisi aussi. C'est aussi le lieu de la lecture. Vous racontez souvent que vous avez lu, beaucoup lu, de la littérature. Alors, j'ai lu ça dans un entretien, donc vous contredirez peut-être, de la littérature québécoise, mais aussi des romans russes. Alors, je ne sais pas si l'information est exacte. Si c'est le cas, qu'est-ce qui les appelait là, à cet endroit-là?
C'est mon père encore qui m'avait offert Solzhenitsyn, le pavillon des cancéreux, la maison de Matryona. Donc c'est, je sais pas, j'ai toujours eu un appel pour la littérature russe. Puis malheureusement, j'avais jamais le temps de m'attaquer à ces belles grosses briques.
Dans Encabané, qui est donc le premier livre qu'on connaît de vous et qui est lié directement à cette expérience, qui est le texte le plus autobiographique qui nous soit parvenu, vous disiez aussi les doutes, la peur du noir, des bêtes, du froid, de tout. L'apprentissage de la nature, c'est aussi ce qui se joue dans La forêt barbelée, qui est donc ce recueil de poèmes qui paraît au Castor Astral. Même s'il était déjà présent dans vos romans, le poème, est-ce que pour vous il dit autre chose, est-ce que c'était une forme qui convenait mieux ou qui convenait autrement pour dire cette expérience-là?
Oui, parce que le poème est une mise à nu, mais totale. Un peu comme quand on est exposé aux éléments, dans la nature, au grand froid, on est dans une vulnérabilité. Mes œuvres précédentes, ce sont des fictions, ce sont des auto-fictions certainement. Je m'inspire de mon vécu dans cette forêt du Kamouraska, mais ce sont des personnages. J'ai romancé un peu pour protéger aussi mes amis militants pour l'environnement. J'ai changé les prénoms, mais la poésie, c'est ce que j'ai de plus personnel à raconter.
On entre dans ce recueil par l'automne, on en sort par l'été, 4 saisons, et un apprentissage, une adaptation à la nature sauvage, au froid, à la solitude, les coyotes, les oiseaux, les baleines, on y reviendra, la forêt, l'amour, la maternité, mais aussi les braconniers, la déforestation, les manquements des pouvoirs publics, le combat pour l'environnement évidemment, et puis cette quête qui trouve progressivement sa place, sa forme, ces mots. Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Gabriel Filtoshiba ?
Bien sûr. À pas feutré. Sur ma terre d'asile, j'assure les rondes, la vigie. Pour rosser ma peur la nuit, j'arpente mon territoire armé d'un pied de biche. J'ai changé mon fusil d'épaule, troqué pions et lampions contre douilles d'argent. Je ne suis pas folle, non. Il y a de quoi qui rôde dans mon bois. Des ombres me frôlent, j'hallucine des pas, tout le temps des pas. Je ne suis pas folle, ciel non. C'est chez moi, ici. Qui es-tu, démon? Qui va là? Je crie pour ne pas qu'on entende trembler ma voix.
Merci. Alors ça, c'était un extrait de l'automne. Donc c'est le départ, quand vous arrivez, qui est la saison de l'adaptation et la saison de toutes les premières. Peur dans ce que vous appelez tantôt votre tanière, votre hutte de misère, votre belle cachette, votre cachot, un quotidien qui va se doubler bientôt de la conscience aiguë de ce qui se joue là aussi et de ce qui menace, de ce qui vous fait enrager. Vous dites le lieu où enfin étancher toutes les bêtes en moi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre violence? Est-ce que écrire, ça sert à ça aussi pour vous?
Oui, écrire, c'est sublimer la violence, certainement. Puis je pense que la violence des femmes est très mal perçue dans nos sociétés. Très vite, on va nous classer, on va dire qu'on est des hystériques parce qu'on exprime une certaine colère, une colère qui est souvent légitime. Mais l'art m'a permis de sublimer cette violence-là, de faire dialoguer des personnages aussi pour ne pas prendre un camp, en fait, d'illustrer nos propres paradoxes. Mais certainement, pour moi, la vingtaine a été une décennie de grande colère et d'incompréhension. Je n'avais pas ma place dans la société, donc je suis devenue une ermite. J'ai commencé à écrire, mais maintenant, je viens en France rencontrer mes lecteurs. C'est assez drôle.
Je parlais de violence, Gabriel Filtoshiba, parce qu'il y a comme une douceur que pointe d'ailleurs Cécile Coulon dans sa préface, une douceur dans votre rage à défendre la nature, à défendre les arbres, notamment l'arbre. Je viens en paix, écrivez-vous, vous qui faites vivre des collectifs d'activistes aussi dans vos romans, vous qui vous êtes engagés localement, politiquement, la douceur comme arme politique, ça vous semble jouable?
Tout à fait. C'est dans l'esprit d'Henri-David Thoreau, le traité sur la désobéissance civile. Il faut être dans la douceur, la non-violence. Il faut aussi trouver des façons ludiques et artistiques de lutter, de ne pas être dans la confrontation. Parce qu'on l'a bien vu, les manifestations, les pétitions, c'est bien beau, mais ça ne change pas grand-chose. Et on s'épuise, et on déprime.
Vous dites, on nous a appris à obéir au Québec. À quoi ça tient?
On est une colonie de ressources qui a été basée sur la traite des fourrures dans un premier temps, mais maintenant c'est l'eau potable, maintenant c'est les forêts, ce sont les mines, le pétrole. Donc on est assis sur des ressources naturelles immenses et qui ont une grande valeur, puis on a une responsabilité de se positionner, de les protéger.
Ça veut dire que écrire pour vous, c'était désobéir?
Oui, parce que je dis des choses dérangeantes chez nous. La preuve, je suis pas traduite en anglais dans mon propre pays, mais je suis traduite en 8 langues en Europe. Alors, il faut s'éloigner un peu de la ligne de front pour qu'on soit entendu.
Est-ce que vous êtes entendue au Québec?
Ça commence. Je pense que vu que j'ai commencé à percer en France, ben on m'entend maintenant chez nous.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite. Par Manu Farine.
Et aujourd'hui à la technique, Florent Bujon, à la réalisation June Lauper, avec la collaboration de Virginie Leduo, et avec nous, Gabriel Filtoshiba, qui signe La forêt barbelée au castor astral, un recueil de poèmes en quatre saisons, qui disent la quête qui a été la vôtre, qui est la vôtre, alors que vous viviez au cœur de la forêt québécoise, de la défense des arbres à celle des belugas. Vous avez choisi, Gabriel Filtoshiba, de nous faire écouter ça.
Il y a des cœurs au fond de l'océan. Il y a l'erreur qu'on fait depuis longtemps de croire que les baleines ne pleurent pas. Comment parler de ça sans briser ma voix? Comment te dire les choses, le mal que l'on cause? Si je savais comment sauver les géants de nos mains qui les tuent.
À perte de vue, extrait de l'album éponyme de Pomme, hein, paru en 2021. Les belugas que vous avez découvertes d'ailleurs lorsque vous étiez en cabané et auquel vous avez consacré d'ailleurs un poème. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience-là?
J'ai des frissons, j'ai encore juste d'entendre Pomme, pardon. Mais de voir des baleines, ça donne espoir, hein, de les entendre, de savoir qu'elles sont encore là, malgré tous les dégâts, les gâchis qu'on a faits, elles sont encore là. Moi, je me rappelle très bien, j'étais allée avec ma fille Flora sur l'île Verte, près de Kakuna, puis c'était début septembre, puis vraiment par pur hasard, c'était le temps des amours, et l'île vibrait par le chant des baleines. Elles étaient si nombreuses, puis on était au bord des eaux profondes, puis j'étais émue aux larmes et je me suis dit non, mais tout n'est pas perdu. Des fois, on a l'impression en tant qu'écologiste qu'on n'arrivera pas à repousser les géants du pétrole puis toute cette destruction infernale qui nous guette. Mais les baleines sont encore là et elles chantent et elles se reproduisent et elles nous saluent même, hein, parce que les belugas, ça m'est arrivé aussi une fois, j'étais sur une petite barque de pêcheurs dans le Saint-Laurent. Puis il y a une maman béluga avec ses deux bébés qui est venue vers nous, juste nous saluer par curiosité. C'est émouvant.
Ce qu'on entend là de Pomme, elle dit « Comment parler de ça sans briser ma voix ?» Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Vous qui écrivez « Je crie pour ne pas qu'on entende ma voix trembler
». Oui, puis c'est particulier parce que Cécile Coulon, dans sa préface, elle a dit elle aurait dû dire « J'écris pour ne pas qu'on entende ma voix qui se brise ». En fait, mon écriture est un cri. Mon écriture est un cri du cœur pour la faune, pour la flore, et pour tous ces écureuils, pour tous ces humains en vigie dans nos forêts qui protègent les derniers peuplements anciens, les forêts qui doivent être protégées en marge des villes, un peu partout.
Vous dites d'ailleurs écrire avant tout en militante. Est-ce que ça veut dire que l'écriture est d'abord un moyen, ou ne serait qu'un moyen pour vous?
Mais d'abord, c'est du papier, hein. On écrit sur de la pulpe de bois. Moi, quand je regarde un livre, je pense à ces arbres. Merci les arbres de nous permettre de partager nos voix, notre littérature, de permettre à nos messages de traverser les époques, hein. C'est grâce aux arbres. Donc moi, je sens une responsabilité de parler en leur nom, au moins un peu.
Mais c'est écrire d'abord pour défendre, écrire pour faire entendre toutes ces voix.
Oui, parce que je pense pas que ma voix, moi, en tant qu'humaine, en tant que Gabrielle, est si intéressante que ça. Donc, je me vois plutôt comme une porte-parole. J'essaie de porter la voix des femmes autochtones disparues, des arbres millénaires qui sont en train d'être coupés, toutes ces personnes, ces êtres qui sont marginalisés, dont on n'entend pas la voix.
Vous êtes pourtant une fille du langage, hein, de la langue, d'une mère traductrice, d'un père professeur de langue. Vous-même, vous êtes traductrice de formation. C'est aussi ça qui vous a façonné. Qu'est-ce qui se joue dans cette matrice-là pour vous, celle de la traduction, donc du coup des langues et votre rapport à la nature?
Oui, ben je trouve que dans le québécois, il y a une telle richesse de vocabulaire que certains de mes concitoyens sont en fait ont honte de leur parler, de leur patois local. Puis moi, en ayant étudié à l'université en traduction, souvent on nous disait que nos expressions très colorées, pourtant magnifiques, étaient des barbarismes, des régionalismes. On nous disait non, il faut s'exprimer dans un français plus international, à la française. Mais moi, je fais le contraire. J'ai voulu consigner vraiment la langue du Kamouraska, parce que quand je faisais livrer mon bois par des bûcherons, par les gens que je côtoyais, je trouvais qu'il y avait... C'était magnifique. J'essayais d'imiter leur langage. C'est la traductrice en moi. Donc, je volais leurs expressions. Je les écrivais dans des carnets. Puis par la suite, je les ai intégrés à mes dialogues et même à mes poèmes.
Vous pensez à quoi, par exemple?
À toutes sortes de termes comme il fait noir comme chez le loup, il fait noir en étole, des termes parfois qui sont religieux, parfois qui nous viennent aussi des Premières Nations. Bien, juste le mot Kamouraska, ça veut dire là où l'eau rencontre les roseaux. Alors c'est l'estuaire du Saint-Laurent, c'est le fleuve qui s'élargit vers le golfe, les eaux salées qui se mélangent aux eaux douces. Et c'est pour ça que les baleines viennent s'y reproduire et avoir leurs petits.
Est-ce que vous voulez bien nous lire un autre poème?
Oui. Touche du bois. Il y a dans ma cabane, comme dans la nature, des choses fragiles et qui pourtant ne rompent jamais. Les gants en cuir du traîneau, le manche usé de la pelle, de la hache, le pétiole ployé des tournesols géants, les frondes d'ifs parce que toutes ensemble, les balais de sorcières qui saignent sapins, la glace mince cause franchir les pécans. Il y a sous la neige et l'herbe dessous tant d'espoirs fertiles en dormance. Je touche du bois, bois sa sève et prie d'avoir moi aussi la force de résister.
Merci. Et vous écrivez aussi confiance, avance femme, sois flèche, vise haut. C'est ton boisé, si tu n'oses pas, Sagittaire, jouer un peu des canines, montrer de quel bois tu te chauffes, te parer d'épines, qu'adviendra-t-il de ton temple ? Chez vous, les femmes sont gardiennes ou vengeresses, souvent, en tout cas dans vos romans, et de toute façon, ce sont les femmes qui font héroïnes, qui font personnages, qui s'adaptent, qui luttent, qui dénoncent, qui aiment. Comment est-ce que ça s'articule chez vous, cette question du féminin et de la défense de l'environnement?
Moi, je vois, c'est un féminisme très maternel. Dans mes livres, je développe une définition du féminisme rural parce que moi...
Plutôt qu'écoféminisme, hein?
Oui, ben le terme écoféministe n'existait pas encore à l'époque. Là, on me l'a collé, mais je l'aime bien, mais... Ce que j'aime dire aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de dépasser les hommes ou de vouloir les égaler, en fait. Ce qui est important, c'est de tracer nos propres sentiers, c'est de faire ce qu'on aime réellement. Et moi, j'avais envie de vivre en forêt, puis d'apprendre à être autonome, puis de fendre moi-même mon bois, de fabriquer mes propres remèdes avec des plantes médicinales que j'avais cueillies dans un premier temps, puis que j'avais appris à faire pousser ensuite, donner naissance naturellement. J'avais envie de me réapproprier tous ces savoirs, tous ces pouvoirs-là féminins. Et je pense que la protection de la nature, ça s'inscrit là-dedans aussi. C'est un rôle de mère qui veille.
Du côté du féminin sacré, si on vous comprend bien. Pourquoi est-ce qu'il faut aller en forêt?
Parce que c'est notre maison, c'est notre place, c'est notre habitat. Moi, je le sais, quand je vais en forêt, je me mets à sourire, je me mets à respirer plus amplement. Il y a une joie qui monte. Puis je regarde les humains autour de moi. Parfois, je les trouve un peu tristes, un peu ternes. Puis je suis certaine qu'après un bref séjour en forêt, ben, l'énergie revient, la joie revient, les réponses viennent. Toutes les réponses sont dans la nature, sont dans notre propre calme, en fait.
Ça serait quoi ou c'est quoi, alors, venir en paix dans la forêt, comme vous, comme vous le dites, comme vous l'écrivez dans le recueil de poèmes?
Marcher lentement, en silence, dans l'écoute, dans l'observation des animaux, des présences, sans brusquer. Hein. Puis aussi, laisser les lieux dans un meilleur état qu'avant notre passage. Moi, je ne peux pas m'empêcher de ramasser tous les déchets que je vois. Alors, je prépare toujours des sacs pour ramener avec moi les déchets que je vois traîner.
Vos droits d'auteur vous ont permis de racheter des hectares de forêt menacés. J'imagine que ça veut dire aussi qu'on n'a plus le temps et que vous n'avez plus confiance du tout dans les services, dans les pouvoirs publics. C'est-à-dire que le changement ne viendra que par nous, pour vous?
Oui, il viendra plus vite par les citoyens. Je pense que les gouvernements travaillent sur des grands projets de conservation, mais qui prennent des décennies, puis qui peuvent être défaits du jour au lendemain par un nouveau parti qui arrive au pouvoir. Et nous, on a les conservateurs qui nous guettent au Canada. C'est effrayant. On a eu des grands feux de forêt cet été. Je pense que les initiatives citoyennes sont les plus rapides, en tout cas. Et il faut aussi protéger les milieux humides, pas seulement les forêts anciennes. Là. Actuellement, chez nous, il y a des milieux humides qui sont en train d'être détruits pour qu'on construise des usines de batteries électriques. Là, c'est un non-sens. Là, ça a été accepté pour, en fait, parce que c'est une énergie de transition, mais il faut pas détruire des milieux humides pour ça. Là. C'est la pouponnière de tous les animaux, les insectes dont on a besoin pour que nos écosystèmes puissent survivre.
C'est fini la politesse, c'est ce que vous dites. C'est ça ce que permet la littérature, de ne plus être poli?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça devient un instrument aussi de conscientisation, puis qui inspire tous ces beaux humains qui luttent. Hein.
À propos de lutte, justement, vous écrivez « Nature d'amour, si tu m'aimes en retour, aide-moi ». Vous écrivez aussi « Mais aussi, pour ne plus fuir, faut-il se barbeler, j'ai toujours envie de m'en aller ». Et vous écrivez aussi, je sais que c'est pas même une goutte dans l'océan, mais attends, j'ai pas fini encore. C'était une sorte de burn-out un peu qui vous avait fait quitter Montréal, hein, la grande ville, en 2013. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose aussi de cet ordre-là, hein, du côté du combat écologiste, la tentation de prendre la fuite? Est-ce que
tout à fait,
ça vous prend parfois?
C'est tellement lourd à porter comme. De se dire qu'il faut que les choses changent, puis on n'arrive pas à voir advenir les changements aussi rapidement qu'on aurait souhaité, mais il faut être dans l'action. Je pense que le meilleur baume ou le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est l'action directe. Moi, je suis allée planter des arbres. Dans un premier temps, j'ai planté 15 000 arbres. Je me disais, il faut que je plante plus d'arbres que de copies vendues de mes livres. Là, j'ai un peu perdu le contrôle à cause de vous. Mais c'est plutôt bien parce que j'utilise ma tribune pour parler de nature, de défense de la nature, puis je vais en planter d'autres des arbres, je vais en protéger d'autres des forêts.
La forêt barbelée, préfacée par Cécile Coulon, apparue aux éditions de Castor Astral. Merci infiniment, Gabriel Filtoshiba, d'être venu nous en parler. J'en profite pour signaler que vous serez dimanche prochain, le 10 mars, au Festival Effraction à la BPI et que vous entamez une vraie tournée de... Enfin, vous poursuivez d'ailleurs une vraie tournée de rockstar dont les dates se trouvent sur le site de l'émission. Poésie ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix L'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.